Chapitre 14. Comme Pierre prenait quelquefois le chemin de la mer pour revenir de l'école, sa mère et mademoiselle Julienne ne furent pas tout d'abord surprises de ne pas le voir arriver à l'heure du déjeuner. « Drogue aura couru une bordée, » dit mademoiselle Julienne. Mais bientôt Marichette s'agita, quittant son travail à chaque instant pour aller à la porte, regarder dans la rue si elle ne le voyait pas venir. « Que voulez-vous qu'il lui arrive ?» disait mademoiselle Julienne. « Il n'y a pas de voiture dans les rues. Il sera resté à jouer aux billes dans quelque coin. Justement, il en avait plein ses poches ce matin. » Mais cela ne rassurait pas Marichette. « Je vais le chercher, » dit-elle en jetant un fichu de laine sur ses épaules. « Il viendra d'un côté pendant que vous le chercherez de l'autre. Que voulez-vous qu'il lui soit arrivé ?»« C'est justement ce que je veux savoir. » Mademoiselle Julienne haussa les épaules comme elle le faisait ordinairement et continua son tricot avec une parfaite tranquillité, se disant que d'un moment à l'autre, elle allait voir l'enfant, puis bientôt après, la mère. Cependant, ils n'arrivèrent ni l'un ni l'autre. Alors l'inquiétude la prit à son tour. Décidément, cela devenait inexplicable. Il fallait qu'elle sût. Elle ne pouvait plus rester sur sa chaise. Comme elle allait à son tour descendre dans la rue, Marichette arriva, affolée et perdue. « Eh bien !» s'écria mademoiselle Julienne. « Où est-il? Qu'avez-vous » Il fallut un certain temps avant que Marichette pût répondre et raconter ce qu'elle avait appris, comment Belloc était venu à l'école et comment il avait enlevé Pierre dans sa voiture. Après le premier cri de la stupéfaction, mademoiselle Julienne se frappa la poitrine. « C'est ma faute !» s'écria-t-elle. « Au lieu de vous retenir, j'aurais dû vous faire partir hier soir. »« C'est la mienne !» dit Marichette avec accablement. « C'est parce que j'ai parlé d'emmener Pierre au bout du monde qu'il l'a enlevé. » Il ne s'agit ni de se désespérer, ni de se laisser abattre, dit mademoiselle Julienne avec résolution. Il faut agir. Nous allons retourner à Saint-Maclou et le lui reprendre. Quand nous devrions ameuter le pays, il faudra bien qu'il nous le rende. Je vais demander le char à banc et le cheval. Et aussi vite que ses mauvais yeux le lui permettaient, elle courut chez le boulanger qui était leur voisin. Mais au premier mot, celui-ci déclara qu'il ne pouvait pas donner son cheval, fatigué de la course de la veille et de celle du matin. Alors mademoiselle Julienne, pour le toucher et le décider, lui expliqua pourquoi elle avait besoin du cheval. « Mais Pierre n'est pas à Saint-Maclou, » dit le boulanger. « Il est chez M. l'abbé Godemont. Je viens de le voir dans la cour en faisant une livraison de pain. Il pleurait si fort qu'il ne m'a seulement pas reconnu. J'ai cru que c'était vous qui l'aviez mis en pension. » Cela changeait la situation. On savait où il était. Et au cas où elles iraient le chercher, elles n'avaient pas besoin de cheval. Mais l'abbé Godemont le rendrait-il? Elle revint vivement pour apporter cette bonne nouvelle à Marichette, car c'était une bonne nouvelle de savoir où il était. « Venez avec moi !» s'écria Marichette aussitôt qu'elle eut compris. Alors mademoiselle Julienne voulut expliquer que l'abbé Godemont ne consentirait peut-être pas à rendre l'enfant qui lui avait été confié par Belloc.
« Au moins, nous aurons vu Pierre !» répondit Marichette. « Pensez à lui! Que doit-il souffrir ?»«
Partons, » dit mademoiselle Julienne. « Vous avez raison, le pauvre petit !» Comme elles allaient se mettre en route, une charrette de mareyeurs s'arrêta devant la porte, et elles en virent descendre lentement sous Pardin, d'autant moins alerte qu'il était chargé de son immense portefeuille noir, plus gonflé que jamais, car ses filles, voulant utiliser son voyage, lui avaient donné des approvisionnements d'épices pour plusieurs familles de Berneval. C'était ces approvisionnements, sans doute, qui l'alourdissaient et l'embarrassaient, car jamais il ne s'était montré aussi mal à l'aise dans son abord, lui toujours plein de forme et d'aisance dans ses longues politesses. « Débarrassez-vous donc de votre portefeuille, » dit mademoiselle Julienne en voulant le prendre. Mais il ne permit pas qu'elle portât la main sur ce meuble vénérable, et s'étant assis, il l'installa tant bien que mal sur ses genoux, veillant à ce qu'il ne tombât point, ce qui eût été désastreux puisqu'il contenait plusieurs bouteilles pleines.
À mon retour, on m'a dit que vous aviez besoin de mon ministère et je suis accouru aussitôt, sans même prendre le temps de changer de linge. » Sa cravate blanche, tordue et noircie, affirmait la vérité de ses paroles. « Que se passe-t-il donc ?» Ce fut Mademoiselle Julienne qui lui apprit ce qui se passait, et il écouta avec une attention scrupuleuse, comme s'il ne savait pas déjà ce qu'elle lui racontait, au moins en partie. Car avant de venir à Berneval, il avait vu Célanie, qui voulait que Marichette contestât la reconnaissance faite par Belloc, et c'était cela précisément qui l'embarrassait. L'intérêt qu'avait Madame Belloquet à empêcher la reconnaissance d'un enfant qui devenait l'héritier d'une fortune qu'elle voulait pour elle était manifeste. Mais celui de Marichette à s'opposer à cette reconnaissance ne l'était pas du tout. Comment les concilier l'un et l'autre et contenter ses deux clientes? Comment donner à Marichette le conseil de s'opposer à cette reconnaissance alors qu'à ses yeux c'était une folie? Il y avait de quoi vraiment le troubler. Mais quand il entendit parler de l'enlèvement de l'enfant par Belloc, il recouvra son aisance de manière en même temps que sa liberté d'esprit. Puisqu'on arrachait un enfant à sa mère, la situation changeait. Ce n'était plus de fortune qu'il s'agissait, c'était de tendresse maternelle. Et alors ? Alors, de peur qu'il arrivât un accident à ses bouteilles, il déposa son portefeuille par terre. « Vous m'avez fort gêné tout à l'heure, j'en conviens, dit-il, quand j'ai compris que vous vouliez contester la reconnaissance passée par M. Belloc, car je n'aurais jamais pu vous donner le conseil de persister dans une contestation qui n'aurait tendu à rien moins qu'à priver votre fille d'une fortune considérable. Mais ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire de sentiment. » « Je ne veux pas que mon fils ait un père indigne, qui le façonne à son image, et en fasse un homme indigne comme lui, » s'écria Marichette. « Enfin, je veux mon enfant que j'aime et qui m'aime, qui a besoin de moi comme j'ai besoin de lui. » « Mon Dieu, mademoiselle, il y a bien des choses là-dedans, les unes qui sont réalisables, je l'espère, les autres qui ne le sont pas, je le crains. » Ainsi, que votre fils ne soit pas le fils de M. Simon Belloc, est un point qui rentre dans cette dernière catégorie. Comment M. Belloc peut-il reconnaître aujourd'hui un enfant qu'il a répudié il y a 10 ans? On peut toujours reconnaître un enfant, c'est la loi. Mais cette reconnaissance peut être contestée par ceux qui y ont intérêt, ce qui est notre cas, dans une certaine mesure. Alors je vous demande de provoquer cette contestation. Le tribunal l'admettra-t-il? Je ne vous cache pas que j'ai des doutes, et même plus que des doutes à ce sujet. Lors de la conception de cet enfant, vous habitiez sous le même toit que M. Belloc. Vous-même, vous avez intenté une action contre M. Belloc en réparation du préjudice qu'il vous avait causé. Toutes les probabilités se rencontrent donc pour attribuer la paternité de cet enfant à M. Simon Belloc, qui le reconnaît aujourd'hui pour telle ou telle raison que nous n'avons pas à examiner. Il n'a pas voulu de cet enfant quand il devait en être embarrassé. Il le veut quand il a besoin de lui. C'est son droit. Mais c'est monstrueux. C'est la loi. Moi, sa mère, je n'ai donc aucun droit sur mon fils. Vous avez celui de demander qu'il ne vous soit pas enlevé, et c'est ce que nous ferons. Le tribunal appréciera à qui il doit être confié et... Voyant l'émoi de Marichette, Soupardin, qui n'était pas un méchant homme, n'osa pas dire sans ménagement tout ce qu'il pensait. Et ce sera l'intérêt de l'enfant qui déterminera sa décision. « Mais tout cela va prendre du temps. Je ne peux pas rester séparée de mon fils pendant ce procès. Il faut qu'on me le rende. Nous allions partir pour aller le chercher. Venez avec nous, vous nous aiderez de vos conseils, vous nous appuierez. » « Je n'ai rien à vous refuser, cependant je ne dois pas vous dissimuler que nous pourrons rencontrer un refus contre lequel je serai impuissant, au moins pour le moment. » Si le cheval du boulanger était trop fatigué pour la course de Saint-Maclou, il ne l'était pas assez pour ne pouvoir retourner à l'institution de l'abbé Godemant. Il avait été convenu en route que ce serait Soupardin qui parlerait et qu'on ne l'interromprait pas. Les choses se passèrent ainsi, malgré l'angoisse de Marichette, qui aurait voulu crier tout ce qu'il ne disait pas. « C'est M. Simon Belloc qui m'a confié son fils, » répondit l'abbé lorsque Soupardin fut arrivé au bout de son discours. « je ne puis remettre l'enfant qu'à son père. »
Mais c'est de la séquestration, essaya Soupardin.
Vous ne le croyez pas, monsieur Soupardin, répliqua l'abbé en souriant.
Marichette ne put pas ne pas prendre la parole, et tout ce que Soupardin n'avait pas dit, les raisons de tendresse, de cœur, elle le jeta avec une véhémence désespérée qui fit pleurer mademoiselle Julienne, mais qui laissa le prêtre impassible.
Monsieur Belloc m'a demandé de ne laisser son fils communiquer avec personne. Je ne peux que lui obéir.
Cependant, comme Marichette, à bout de force, avait laissé échapper un sanglot, il eut un mouvement de pitié. On entendait dans la cour sur laquelle donnaient les fenêtres du cabinet du directeur, situé au premier étage, la rumeur et les cris des élèves en récréation. Il alla à cette fenêtre et, ayant regardé dans la cour, il appela Marichette près de lui.
« Tenez, dit-il. »
Et de la main, il lui montra un enfant appuyé tout seul contre un arbre, tandis que les autres enfants jouaient autour de lui. C'était Pierre. Comme Marichette allait ouvrir la fenêtre, il la retint.
« Qu'il ne vous voie pas. Il n'en serait que plus malheureux encore. »